France Culture, les matins d'été, Julie Gacon.
En forêt, l'inanimé peut soudain s'animer. Le dieu se change en bête, le hors-la-loi défend la justice. Rosalind apparaît en garçon, la ligne droite forme un cercle, le familier cède la place au fabuleux, écrivait l'américain Robert Harrison dans son livre « Forêt, essai sur l'imaginaire occidental ». La forêt a pris beaucoup de place dans votre imaginaire à vous et vous y emmenez le nôtre. Bonjour Eva Jospin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, artiste plasticienne. On peut voir plusieurs de vos œuvres en ce moment, à l'occasion par exemple d'une escale estivale au domaine de Trévarez dans le Finistère. Vous y avez installé une réplique de l'immense forêt sculptée, ciselée dans du carton que vous aviez exposé dans la cour carrée du Louvre il y a 2 ans. Alors, il n'y a rien de pire que de se perdre en forêt, donc accompagnez-nous un peu. C'est comment ?
Alors, au domaine de Trévarez en ce moment, c'est l'œuvre que j'avais exposée au Louvre, mais sans la structure. En fait, on l'a remontrée en intérieur. Voilà, je précise que
vous faites
c'est
bien.
La même, en fait.
C'est la même, voilà. D'accord. C'est pas une réplique,
non.
C'est la même.
Voilà.
Comment on entre dans cette forêt ?
Bah, celle-ci, en particulier, elle est un peu différente des autres parce qu'elle est représentée... c'est un cercle, en fait, et l'idée, c'était de reprendre le principe des panoramas du 19e siècle, qui étaient ces structures dans lesquelles on montrait des peintures à 360 degrés et qui permettaient aux gens de faire plutôt un voyage immobile à une époque où peu de gens voyageaient. Et donc, on pouvait voir une grande bataille pour édifier l'esprit patriotique, mais aussi découvrir le golfe de Naples. Et il y avait un côté à la fois... les effets de la peinture, des techniques de peintre et de décorateur, et en même temps c'était un peu un pré-Luna Park, et ces structures elles sont un peu tombées aux oubliettes. Il y en a encore qui restent, par exemple le théâtre du Rond-Point est un ancien panorama. Souvent ces architectures elles ont été ensuite transformées pour avoir un autre objet, et je me suis un peu attachée à reprendre ce sujet-là. Donc celle-ci en particulier est assez différente.
La forêt comme espace clos, c'est vrai que l'ingéniosité du petit pousset aurait un peu perdu de sa superbe. Votre forêt à vous, c'est plutôt quelle ambiance, quelle couleur, quelle histoire ? Est-ce que c'est plutôt le petit chaperon rouge, Rashomon de Kurosawa, le Blair Witch Project pour avoir un panorama un peu large ?
Disons que ce qu'il y a de formidable en fait dans le sujet de la forêt, c'est que au fond c'est un sujet assez inépuisable. Et les références, elles sont extrêmement multiples. Je dirais que moi, elles sont quand même plutôt liées à la représentation dans la culture européenne, à travers la peinture, mais aussi le haut-relief, le bas-relief, aussi les tapisseries. Donc finalement, toute cette partie de la nature représentée un peu en Europe, où on se rend compte que le moment où on commence à aller vraiment sur le motif, et ça arrive assez tard, et très souvent, si on prend un des tableaux les plus célèbres, par exemple le Printemps de Botticelli, si on regarde l'arrière-plan de forêt, on se rend compte que la représentation, contrairement au corps qui cherche à être fidèle, là, pour le coup, vraiment l'imaginaire est extrêmement présent.
Alors, il y a la littérature, on parle très bien aussi de la forêt. Il y a le Pays doré de George Orwell, qui est un espace de fuite et de liberté pour son personnage Winston Smith, hors du champ de vision de la police de la pensée. Il y a la forêt d'Edgar Allan Poe, qui doit aider la nuit à noircir le monde. Il y a celle de Thoreau, Je rêve d'un peuple qui commencerait par brûler les clôtures et laisser croître les forêts. Et la vôtre de forêt a des clôtures par définition.
Je pense qu'en fait, c'est à la fois ce qui m'intéresse finalement dans la façon dont je travaille, c'est de jouer des oppositions, c'est-à-dire représenter ce qui est censé avoir quelque chose, enfin une durée de vie, en tout cas beaucoup plus longue que notre vie humaine. Un arbre, ça peut avoir 300, 400, 500 ans, et en même temps le représenter avec un matériau qui est fragile. Finalement, cette forêt, elle se joue des connaissances, parce que les peuples qui vivent dans les forêts et les quelques peuples dits primitifs qui vivent encore dans les forêts ont une connaissance absolument parfaite de la forêt. Donc c'est aussi un lieu de connaissance. Et par contre, quand on ne connaît pas un bois, on s'y perd immédiatement et on ne sait pas si on est à 100 mètres ou 4 kilomètres d'un lieu ou d'une route ou d'un lieu familier. Donc c'est la façon de pouvoir se perdre immédiatement, ou bien au contraire de pouvoir s'y cacher, se protéger, en vivre, Voilà, et puis après on a aussi en tête finalement cet espace de, on va dire, de résistance, parce que dans d'autres époques que la nôtre, les forêts françaises pouvaient être des lieux où on cachait les gens, où il y avait des enlèvements, les bandits de grand chemin, et on avait vraiment du mal à les retrouver. Il y avait des repères comme ça où vraiment on cherchait à savoir où ils se cachaient, mais on les trouvait pas. Donc il y a aussi cet espace un petit peu plus Robin des Bois de retranchement.
Avec aussi des blocos comme dans le balcon en forêt de Julien Gracq, et cette forêt de la Meuse très triste, de toute éternité cette forêt avait été crépue d'arbres, avait fatigué la hache et le sabre d'abattu par le regain de sa toison vorace. On aime la forêt, mais ce qu'on oublie beaucoup, Eva Jospin, c'est qu'aujourd'hui la forêt elle est industrielle aussi en France, elle a vocation à nourrir l'industrie bois tout simplement.
Oui,
et c'est beaucoup moins poétique tout d'un coup.
Elle est industrielle pas seulement qu'en France, elle est aussi industriel au Cameroun par exemple, où il y a une incroyable forêt primitive qui est remplacée par des arbres pour faire de l'huile de palme. Donc on sait tous que on a quelque chose à protéger qui est essentiel. Ça se fait très très lentement. Après c'est vrai que mon travail prend cette dimension-là, parce que je pense qu'on est complètement traversé par le contemporain et forcément sensible au sujet qui nous entoure. Mais c'est pas une... Je veux dire que ça va au-delà dans mon imaginaire que juste dire, voilà, attention, on détruit les arbres. Bon, ça porte quelque chose de plus long, de plus loin. Et vous avez eu de très belles références ce matin, mais il y a aussi toute la mythologie, parce que c'est vrai que la forêt, c'est aussi l'architecture primitive, c'est aussi l'espace de la naissance de nombreux mythes. Et voilà, donc ça, c'est présent à mon esprit.
Alors, le lieu dans lequel vous avez dressé cette forêt, c'est le domaine de Trévarez, c'est un beau terrain de jeu. On n'a pas dit un mot, pardon, de votre méthode, mais du carton que vous utilisez pour cette forêt, juste retour des choses, le carton qui vient de la forêt, d'ailleurs.
Alors, on va préciser aussi, peut-être parce qu'à partir du 25 août, il va y avoir une œuvre qui sera installée de façon permanente à Paris, et l'entrée, ce sera au 14 boulevard Raspail, je le dis parce que les gens pourront y aller quand ils voudront.
Donc, près de Saint-Germain-des-Prés et non
ça.
Des bois.
Exactement, des prés. Des anciens bois, hein, ils ont peut-être coupé un bois à cet endroit. Et voilà, et donc oui, en effet, la technique, tout simplement, c'est de partir ces couches après couches de carton qui finalement créent une profondeur. Et voilà, et donc en fait, on peut appeler ça comme le haut relief, parce que c'est pas sculpté directement dans la matière, mais c'est vraiment des couches additionnées les unes aux autres.
Avec des arbres très serrés, votre forêt pourrait être une de ces forêts industrieuses de Douglas, par exemple, jusqu'à 100 arbres l'hectare. C'est très serré.
Oui, mais ça, c'est du jeu. C'est un jeu de visuel, et quand on représente, on a toutes les libertés. Et je dirais aussi que une des autres libertés que j'ai dans ce travail-là, c'est de travailler à la fois sur le monumental et sur le minuscule, parce que je vais aussi bien avoir l'obsession d'un détail, d'une petite herbe, d'une branche, d'un bout d'écorce, d'un trou dans le carton, et puis tout ça se perd par exemple dans l'œuvre qui est présentée à Trévarez, ou celle qui sera à Paris dans ce passage. L'œuvre, elle fait 24 mètres de long par 5 mètres 30 de haut, donc forcément votre petit bout d'herbe, vous le retrouvez plus. Mais c'est aussi cette profusion et cette obsession du détail qui, à mon avis, crée l'envie de s'y perdre, parce que concrètement, on ne pourra jamais voir la même œuvre, on ne pourra jamais la regarder entièrement, parce qu'il y a trop de détails, il y a trop de foisonnement, justement.
Il y a trop de foisonnement dans ce domaine de Trévarez, qui est un magnifique terrain de jeu, et où vous proposez une autre œuvre, Nymphée, c'est ce qu'on appelle une folie. C'est aussi ce qu'on retrouve en ce moment au domaine de Chaumont-sur-Loire, plus couramment appelé Château de Chaumont, dans le Loir-et-Cher. Qu'est-ce que c'est que ces folies, type de construction décorative installé, ai-je lu, dans les jardins de la Renaissance?
Oui, en fait, les folies, ce sont toutes les architectures de jardins qui n'ont pas d'utilité. Donc,
inutile, quoi.
Voilà. Et c'est vrai que déjà, ce principe-là, pour un artiste, ça fait un petit peu rêver.
Il n'y a plus grand-chose qui est inutile aujourd'hui, c'est vrai.
Oui, ou alors beaucoup trop, peut-être, on ne sait pas trop,
oui,
justement.
Vrai, vous avez raison.
Mais disons que ces folies, c'est très intéressant, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'analogies avec la forêt, puisque si... Moi, dans ce type d'architecture, il y a différents types d'architecture. Donc il y a des architectures dites classiques, il y a les folies champêtres, comme par exemple le hameau de la Reine à Versailles, pour donner des exemples. C'est une folie parce que ça n'a pas, parce que c'est construit de toutes pièces et le hameau de la Reine n'est pas une vraie ferme. Enfin, je veux dire, c'est pas une ferme d'exploitation, donc c'est un caprice au fond. Et en fait, ces folies renaissent dans les jardins de la Renaissance, surtout beaucoup. Vous voyez les jardins de la Renaissance, quel beau lapsus. Surtout beaucoup autour du thème de la grotte. Et en fait, ces grottes-là, elles sont aussi présentes dans l'Antiquité grecque et romaine, et notamment les nymphées romains. Et il y en a beaucoup d'exemples à Pompéi, mais beaucoup d'exemples aussi à Rome. Et donc, il y a aussi un lien, quelque chose qui fait qu'on revisite à plusieurs reprises le passé. Ces folies, elles sont très présentes dans les jardins de la Renaissance, puis elles reviennent dans les jardins du XVIIIe siècle, avec des jardins philosophiques. Donc là, on n'est plus trop dans le mythe, mais plutôt dans la philosophie. En même temps, elles reviennent aussi à un moment où on commence à s'intéresser au sous-sol, au minéral, aux cavernes, à l'exploration de ce qu'il y a sous la terre. Donc il y a quelque chose d'à la fois scientifique et en même temps une forme de rêverie, de promenade à nouveau. Et puis ensuite, on a des exemples, les buttes Chaumont, tout le rocaillage du 19e siècle, etc. Et c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment à la fois une technique qui reste souvent la même depuis l'Antiquité, et puis un retour sur le passé avec différentes visions qui s'augmentent à chaque fois, et à chaque fois une forme d'oubli. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore à nouveau un peu oublié ce que c'était finalement ces grottes de jardin.
Et on a oublié qui les a dessinées,
Oui, les auteurs disparaissent complètement. Et je trouve ça intéressant aussi parce que c'est vrai que comme moi, je travaille beaucoup avec le carton. Alors pour les folies, j'ai fait ça en béton cette fois-ci parce que ça doit être dehors.
Mais vous avez aussi fait une grotte, je ne l'ai pas précisé.
C'est vrai, c'est j'ai fait une grotte dans le domaine de Chaumont. Je regardais justement en regardant des choses sur les grottes, je tombais sur le travail de Bernard Palissy qui était un grand céramiste mais aussi un peu un alchimiste, un chercheur, etc., un personnage assez étonnant, et je voyais qu'il avait construit une grotte pour Catherine de Médicis aux Tuileries, donc un immense ouvrage commandé par une reine. Bon, c'est détruit. Donc ce que je veux dire, c'est que la pérennité des œuvres d'art, elle est toujours toute relative, et on peut pas tout garder. Donc c'est pour ça que moi ça m'amuse aussi par rapport à mon travail, parce qu'on m'interroge souvent sur la question de la pérennité, de penser qu'au fond, elle n'est vraiment pas entre nos mains. Voilà.
On a oublié le nom de ceux qui ont fait ces folies, on a oublié aussi, à part le nôtre, mais on a oublié ceux qui ont conçu les jardins. Et le jardin, c'est un élément qui vous intéresse en soi.
Ça m'a toujours intéressé. Déjà, dès que j'ai commencé à travailler sur la question du paysage et de sa représentation, ça m'a toujours intéressée. Et c'est vrai que j'avais un peu envie de m'inscrire dans le jardin parce que il y a une sensation physique dans la promenade qui fait qu'une œuvre, même très grande, comme par exemple la grotte que j'ai fait à Chaumont, se perd dans le paysage. Donc finalement, la monumentalité de l'œuvre devient plus discrète dans la nature. Donc je crois que ça me plaisait beaucoup. Et j'aimais beaucoup aussi ces architectures. Parce que, le terme de folie, il y a une idée, c'est l'artifice, c'est le caprice, l'inutilité. Finalement, beaucoup de notions qui ont presque un côté péjoratif, c'est frivole. Mais en même temps, qu'on a envie de redécouvrir, finalement, à la fois c'est péjoratif, mais en même temps, dès que ces mots sonnent à l'oreille, en fait, ça donne très très envie d'aller voir, au contraire. Et on est assez content de se dire qu'on peut être un peu capricieux de temps en temps.
Vous dites que ces forêts, ces grottes permettent de s'échapper, à moins que ce soit ce qui explique votre travail. Et le vocabulaire de l'art contemporain, parfois, me pose des questions. Donc, s'échapper de quoi ?
Mais je dirais que en fait ces œuvres comme ces grottes, elles ont quelque chose de très contemporain, ou en tout cas que l'art contemporain a rejoué depuis le XXe siècle, c'est-à-dire l'art immersif. Ce sont des œuvres lieu en fait. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que finalement il y a eu c'est pas pour faire une histoire de l'art, mais c'est vrai que au XXe siècle, on a changé les catégories de l'art, on a changé les catégories du beau et du laid, on a changé la question du trivial, du profane. Enfin, tout ça, c'est complètement remodelé. Mais en réalité, ces questions étaient déjà en jeu dans les jardins et dans ces grottes, parce que justement, on pouvait travailler, comme il y avait de l'eau, il y avait du visqueux, du sombre, de l'étrange, toutes ces du fragile aussi, parce que finalement, ces grottes n'ont pas été conservées ou pouvaient s'abîmer. Donc toutes ces questions-là, qui sont finalement des questions très contemporaines, se jouaient, mais pas dans le grand art. Et ce qui est intéressant, c'est d'imaginer que ces jardins, ils sont créés au même moment que les œuvres les plus classiques, les plafonds peints les plus beaux des plus beaux palais d'Italie, comme je sais pas par exemple le palais Farnèse en dehors de Rome ou la Villa d'Este. Donc il y a une représentation extrêmement classique dans l'architecture et puis le grain de folie dans le jardin. Et c'est ces oppositions là qui, à mon avis, sont très intéressantes.
Mais à propos des modes d'ailleurs dans l'art, vos forêts à vous, elles sont figuratives. Et je croyais que c'était fini l'art figuratif dans l'art contemporain.
Non, je dirais que ce qui peut-être surprend parfois, c'est qu'on a une forme de loi non dite qui ferait que quand on représente des choses abstraites, on peut faire des séries à l'infini. Par contre, quand on fait du figuratif, il faudrait changer tout le temps. Donc c'est vrai que comme moi, j'ai tendance à insister sur mon motif, c'est peut-être un tout petit peu moins commun quand le motif est figuratif et un petit peu plus accepté ou en tout cas connu quand le motif est abstrait, on va dire.
Et il paraît que les nouvelles générations d'artistes, de toute façon, passent d'un médium à un autre, peuvent mélanger les techniques. Finalement, c'est un peu la société fluide que nous racontait Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, tout à l'heure, appliquée aussi dans l'art. On passe d'une technique à l'autre tout le temps. S'adapte plus qu'avant.
Oui, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en fait, il y a des artistes pour les artistes. Et c'est vrai que je me souviens, il y a longtemps, on regardait beaucoup l'œuvre de Martin Kippenberger, par exemple, parce que justement, il passait d'un motif à l'autre, des choses qu'il faisait lui ou qu'il faisait faire. Il demandait à des peintres de cinéma d'interpréter, de faire ses tableaux avec des indications qu'il donnait, mais en même temps, il pouvait aussi peindre des centaines de tableaux. Il passait d'un médium à l'autre. Et c'était un artiste à l'époque qui frappait un peu les esprits parce que il y avait l'idée qu'il fallait toujours rester dans le même médium, insister sur le même médium. Et je pense que ça a beaucoup bougé. L'art contemporain s'est complètement reconstitué ces 10 dernières années. Et c'est vrai que les catégories se mélangent. Et j'ai l'impression qu'on est dans une phase de grande tolérance, alors qu'il y a eu un moment où je pense que quand on jouait du tennis, on détestait les gens qui jouaient du ping-pong et il y avait des petites oppositions comme ça qui paraissent un peu plus anecdotiques aujourd'hui.
Eva Jospin, vous avez commencé par l'architecture, des études d'architecture. La forêt, en quelque sorte, c'est une architecture déjà là. Dans l'ouest de la France, par exemple, et je reprends Julien Gracq dans Le Balcon en forêt, il écrit « Dans l'ouest, les arbres ne sont jamais tout à fait en boule, ni tout à fait en pinceau. » Voilà, on ne saura jamais qui a dessiné les plans de ces forêts tous ces milliers et millions d'années. Vous auriez aimé être une bâtisseuse ? Vous avez l'esprit de la...
Oui, en fait, j'ai fait de l'architecture, mais je dois avouer que c'est vraiment par hasard, parce que j'ai fait les Beaux-Arts juste après. Et à l'époque, j'avais fait de l'architecture, je m'intéressais à la scénographie, on sera pas étonné quand on connaît un peu mon travail. Donc c'était plus un accident, mais c'est un accident qui m'a beaucoup marqué, parce que c'est vrai que j'ai un petit rêve, oui, de bâtir des choses, mais plutôt des choses... des choses un peu inutiles, justement. Donc c'est vrai que le terrain du jardin et toutes les constructions un peu démesurées qui ont pu la composer m'intéressent beaucoup. Le panorama aussi, puisque c'est une architecture, un bâti assez important dans certains cas, mais juste pour montrer une toile peinte. Donc tout ça me plaît beaucoup. C'est vrai que j'ai plutôt envie de bâtir des lieux qui n'ont pas forcément une utilité, mais qui sont plus des espaces de réflexion et de promenade et de rêverie.
Tout paraît statique. Et en fait, les animaux cherchent des coins à l'abri, grattent sous la neige pour trouver quelques feuilles de ronces à brouter, se mettent à l'abri des épicéas pour dormir. Au fond, on aperçoit une lumière tout au loin.
Oui, c'est une maison de l'autre côté du ruisseau. Et là, on entend déjà le murmure de la grande futaie qui reprend un peu le son du torrent qu'on a longé tout à l'heure.
Et là, vous pourriez être seule ici, à cette heure ?
Ici, oui. Plus loin, non. Non, je n'arriverai pas encore à m'enfoncer plus loin dans la forêt seule.
Parce que la forêt devient plus dense ?
Parce que j'ai l'impression qu'elle se referme derrière moi. Là, je sais qu'il y a encore l'ouverture. Ma maison n'est pas loin. Après, elle me possède et j'ai peur. Il n'y a pourtant aucun danger.
Voilà, archives de 1993, l'émission Grand Angle, c'était l'appel de la forêt par Marie Polvette sur France Culture. On entend plein de choses dans cette archive, Eva Jospin. On entend l'appréhension de l'espace clos. J'ai peur que la forêt me prenne, dit cette femme. Comment réagissent les spectateurs ou visiteurs, mais qui méritent ici le titre de promeneurs, voire de randonneurs, ceux qui arpentent vos forêts?
Ben, je pense que les réactions sont très diverses. C'est quand même un espace de projection, puisque c'est une référence qu'on a en commun. Donc c'est vrai que pour un artiste, c'est toujours agréable d'avoir un sujet qui parle aux autres, parce que ça permet d'être plus direct. Et je dirais que comme c'est un peu un espace de projection, les spectateurs ou les visiteurs, les promeneurs, ils projettent un peu l'état dans lequel ils sont. Donc parfois c'est quelque chose de très apaisé, de très doux. Les enfants, ils voient des animaux qui n'existent pas, ça c'est systématique, enfin très souvent. Et puis il y a aussi des gens qui, au contraire, le vivent avec inquiétude. Donc, mais je pense que à chaque fois qu'on visite l'œuvre, on peut ressentir quelque chose de différent. Donc j'engage maintenant qu'il y aura une œuvre pérenne, les gens allaient s'y promener plusieurs fois.
De The Cure, Eva Jospin, votre forêt à vous et d'autres œuvres sont à voir au domaine de Trévarez dans le Finistère jusqu'au 14 octobre. Votre folie grotte est au château de Chaumont jusqu'au 4 novembre.
Oh mais non, elle reste plus longtemps.
Ah oui, vous le disiez tout à l'heure, pardon.
Elle s'installe, elle s'incruste.
Elle s'incruste dans le paysage, ouais. Dans le décor. Vous travaillez aussi sur une œuvre monumentale à Nantes, je crois. Vous nous parliez de ce que vous êtes en train de faire, boulevard Raspail à Paris, et puis quelques autres petits projets ici et là.
En Italie, oui, au Palazzo dei Diamanti. Ce sera une exposition à Ferrare autour de l'œuvre de Courbet. Donc, c'est une très grande rétrospective de Courbet. Et puis il y a un projet d'exposition en Allemagne, certainement une autre exposition dans ma galerie aussi en 2019. Voilà, bon, il y a pas mal de choses.
Merci.
Vous tiendrez au courant.
Oui, volontiers. Merci beaucoup Eva Jospin d'être venue ce matin dans les studios de France Culture. Et c'est donc sur The Cure que je remercie toute l'équipe des matins, Pauline Chanu et Jean-Christophe Brianchon à la programmation, Marine Beccarelli et Cédric Fuentes, Aurélie Clément et Cosima Mezidi. Des matins réalisés par Milena Elig, avec à la technique Emmanuel Morse-Duncan. France Culture, il est 9h.